Bien, et donc c'est notre aussi, ça sera, c'est notre dernier week-end avant la retraite, hein, du mois d'août. Donc oui, le prochain enseignement ou cours, en tout cas, sera lieu en septembre, on reprend. Mais là, avant la retraite, donc il n'y aura pas d'autres week-ends. Ce qui permet, on est à peu près à la moitié du programme. Voilà, donc tout va bien. Donc si vous voulez vous inscrire donc à la retraite, vous pouvez donc je pense déjà le faire, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Vous avez les dates? Je vais peut-être vous les rappeler. Que je ne fasse pas de bêtises parce que ça sera donc du 21 août au 27 août. Ça commence le 21, c'est-à-dire un samedi, mais il faut arriver le vendredi soir, parce que, au moins pour 17 heures, parce qu'il y aura une présentation, une introduction avec toutes les comment ça va se passer, etc. Donc venez le 20, mais la retraite effectivement commencera le 21. Bon, je pense que le 20, il y aura juste une introduction, puis peut-être une petite méditation le soir après le repas. Avant d'aller au lit, je vous rappelle que cette retraite, donc, elle est en silence, en tout cas jusqu'à 14 heures, c'est-à-dire après le repas. Hein. Toute la matinée est en silence. Et voilà, l'après-midi, par contre, vous pouvez parler, il y aura des questions-réponses l'après-midi. Et les sessions commencent le matin, 6h30. Et finissent le soir à 22h à peu près. Donc c'est une retraite intensive qui porte essentiellement donc sur ce qu'on a vu pendant cette année cette première partie en tout cas du cursus de découverte du bouddhisme. Et il n'y aura pas vraiment d'enseignement, ce sera surtout de la méditation, d'après ce qu'on a vu. Hein, donc c'est-à-dire, venez avec vos notes, avec vos références, avec tout ce qui vous permet de méditer sur les sujets qu'on aura abordés. Je ne vais pas, non, bon, je veux peut-être, il y aura quelques, je vous redonnerai la structure, hein, brièvement de la méditation pour que vous ne vous perdiez pas. Mais en gros, ce sera à vous d'alimenter les rubriques par votre expérience personnelle et par vos réflexions. Donc préparez-vous déjà, hein, vous avez 2 mois en fait, pour bien classer tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait par thème. Et voilà, donc pour vraiment approfondir, le but de cette retraite, hein, c'est d'intégrer, hein, ou d'essayer, ou de commencer en tout cas, si ce n'est pas encore fait, d'intégrer ces enseignements. Et donc, c'est une retraite d'intégration. Et c'est bien parce que justement, ça permet de faire ce qu'on n'a pas le temps vraiment de faire le reste du temps, parce qu'on est pris dans nos activités, et puis on va toujours un peu vite. Donc, nos méditations du matin, nos méditations du soir, mais ça reste un petit peu superficiel. Donc là, vraiment, ça donne l'occasion d'aller plus en profondeur et ça change la vie. Ça change tout. À partir de ce moment-là, on voit, hein, d'après les. Bon, c'est la troisième fois que je fais ce cursus, donc je n'ai pas une très grande expérience de la chose, mais d'après ce que j'ai pu voir sur les fois d'avant, il y a un avant et un après. Cette retraite, c'est pas du tout pareil. Donc il y a un changement qui a lieu pendant et après la retraite. Dans la majorité des cas, je dis pas que c'est une règle générale qui s'applique forcément à tout le monde, sans exception, mais en général, donc j'ai pu remarquer ça. Donc voilà, bienvenue si vous avez envie d'intégrer ça, et puis d'avoir une expérience. Si vous n'avez jamais fait de retraite, en tout cas sur le Lamrim, en tout cas, ça serait une bonne occasion justement de rentrer en profondeur dans ces sujets. Ces sujets qui ne sont pas en fait des sujets. On pourrait croire que ce sont des sujets de base, mais on les retrouve tout le temps dans notre parcours bouddhiste, en fait. Hein. C'est des sujets sur lesquels on revient sans cesse. Tant qu'on ne les a pas réalisés. D'ailleurs, Lamadson Kappa a écrit des chants de réalisation, justement, ou des chants qui résument les points essentiels de ces pratiques pour constamment se les remémorer et se les ramener à l'esprit d'une manière un peu synthétique, mais profonde aussi. Bien, donc on va se concentrer pour démarrer ce nouveau week-end qui est consacré au refuge. Donc on se concentre quelques instants sur la respiration, sur notre souffle. Et on peut commencer par prendre deux ou trois inspires assez profondes pour bien sentir la respiration. Ensuite, on se concentre exclusivement sur la respiration, sur le va-et-vient du souffle, en ressentant ce passage au niveau des narines ou sur les mouvements de l'abdomen. On essaie de compter 10 cycles de respiration.
Je ne me sens pas dit de me connecter tout de suite, mais enfin, je saurais que...
Maintenant, donc on va essayer d'établir une motivation positive en pensant que pour que ce week-end soit vraiment bénéfique, que ça nous apporte quelque chose, non seulement à nous, mais aux autres, et pas simplement dans cette vie, mais aussi dans les vies futures, il est important d'écouter avec une bonne motivation. Et la meilleure motivation que l'on puisse avoir pour écouter les enseignements du Dharma, c'est de vouloir les mettre en pratique. De les mettre en pratique pourquoi ? Pour éliminer nos perturbations mentales. Pourquoi éliminer nos perturbations mentales ? Parce qu'elles nous font souffrir. Dans cette vie, elles nous feront souffrir dans le futur. Et elle cause de la souffrance pour nous-mêmes, directement et indirectement, pour les gens qui nous entourent. En plus de ça, donc, si on est réunis ici, c'est que quelque part, on a envie de cultiver ou de développer, d'accroître ce potentiel, notre potentiel, le potentiel de notre esprit. Et pourquoi est-ce que l'on veut accroître le potentiel de notre esprit pour avoir plus de bonheur ? Et non seulement plus de bonheur, mais un bonheur parfait. Faire l'expérience de ce qu'est le vrai bonheur. Mais aussi de développer toutes nos qualités. Et grâce à ce développement des qualités, on pourra être bénéfique à soi-même et aux autres. Donc c'est la motivation la meilleure que l'on puisse générer, la motivation du grand véhicule, la motivation la plus vaste. Donc maintenant, on va visualiser devant soi le Bouddha Shakyamuni, qui est assis sur un trône où il y a un lotus avec un disque de soleil et un disque de lune posé sur le lotus. Et dessus est assis le Bouddha Shakyamuni, de couleur dorée, comme la statue qui est derrière moi. Mais seulement, il n'est pas en métal, il est en lumière, comme un arc-en-ciel extrêmement lumineux, extrêmement beau, avec plein de rayons qui partent dans toutes les directions. Et à chaque extrémité des rayons, il y a de minuscules Bouddhas Shakyamuni qui vont faire le bien des êtres de partout, dans tous les mondes, tous les univers. Et on pense que le Bouddha Shakyamuni donc, n'est pas une statue, mais quelque chose de vraiment présent devant nous, sous une forme impalpable, mais très lumineuse, comme une boule de lumière qui rayonne à l'infini. Donc si vous ne voyez pas cette chose physiquement, c'est pas grave, simplement imaginez cette présence de l'éveil, en fait, devant vous. L'incarnation de l'éveil. Sous les traits du Bouddha Shakyamuni. En gardant cette visualisation le plus possible, on va penser qu'autour de nous aussi, il y a d'innombrables êtres. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés par d'abord par tous les gens qui font partie de notre quotidien, nos amis, mais aussi des gens que l'on fréquente, pas forcément, mais que l'on côtoie ou que l'on voit tous les jours, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Il peut y avoir aussi les gens avec qui on a des difficultés, des problèmes. Et plus loin, tous les êtres, en fait. Une immense foule d'êtres vivants qui, comme nous, vont réciter cette prière, les prières qu'on va réciter maintenant pour commencer l'enseignement, pour donner un cadre bouddhiste à cet enseignement. Donc on va prendre le livret doré à la page 73. C'est le livret doré, oui. Il y a deux livrets, il y en a un argenté et un doré. Et donc on prend celui qui est la couleur du Bouddha Shakyamuni. Et on récite la louange. Donc on récite la première strophe trois fois. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». En vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Ensuite, on va lire le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides ? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuité ? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite. Jusqu'à, il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et en avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse ? Et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, Le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. On lit ensuite, page suivante, la prière à Dakini au visage de lion, en bas de la page. De la sphère sacrée, suprême des Kacharas, vous qui, par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des trois endroits, je me prosterne. Akasamara, Chasadara, Samara, Yapé. Akasasamara sadara samarayape tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Par les enseignements des trois nobles, rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés. Que tous les ennemis et toutes les forces négatives, contraires au dharma, soient complètement pacifiées. Shantim kuru soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Donc on va ensuite à la page 98. On va demander au Bouddha donc d'enseigner. On offre un mandala donc pour demander, on offre en fait toutes les richesses de l'univers, tout ce qui est de mieux dans le monde, dans tous les mondes en fait, pour que le Bouddha dispense son enseignement, un enseignement qui nous touche, qui nous correspond parfaitement. Cette terre, oine de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Maître pur et parfait, saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de tous vos disciples. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Donc on va réciter la prière de refuge une fois en tibétain et deux fois en français. Sangye cha danso ke cha nam la jan chu ba du dan hi gap su chi dai ge jen zo gi pe tsun nam ki dro la pen chir sangye dro pa shu. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc on a pris refuge, en tout cas, mais est-ce qu'on a vraiment pris refuge ? On a récité la prière de refuge, en tout cas, dans le refuge, dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Mais au fond de nous, est-ce que nous avons vraiment pris refuge? Là est la question. Parce qu'on peut réciter cette prière formellement, comme ça, en pensant tout à fait à autre chose. Et c'est pour éviter ça qu'on va discuter, qu'on va réfléchir ce week-end, justement, à la signification du refuge. Qu'est-ce que c'est que le refuge? Donc, le refuge dans quoi, déjà? Dans les trois joyaux, hein. Vous avez vu ce terme « rares et sublimes » qui est en fait la traduction littérale du mot, de l'expression tibétaine « kunchok ». « Kun » veut dire « rare » et « chok » veut dire « suprême ». Bon, les amis, « sublime », c'est un peu plus poétique sans doute, mais normalement c'est « suprême », c'est pas « sublime ». Sublime et suprême, il y a une petite nuance quand même. Hein. « Suprême », ça veut dire « supérieur ». Donc, les joyaux, en sanskrit, ils ont simplement, ils appellent ça triratna, c'est-à-dire les trois précieux, hein, les trois précieux, ou les trois joyaux, quoi, en fait. Et les Tibétains ont ajouté, comme pour qualifier en fait ces joyaux, ils ont ajouté les adjectifs rares et précieux. Donc, il n'y a pas le mot joyaux en tant que tel en tibétain, il y a le mot rare et précieux. Donc, quand vous voyez cette traduction « rares et sublimes », en fait, ça fait référence aux trois joyaux. Aux trois joyaux du refuge. Hein, d'accord? Donc, les trois joyaux, c'est le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Mais ce n'est pas une institution. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est institutionnalisé, en fait. C'est quelque chose d'intérieur. C'est un refuge intérieur. Et donc, ce sujet du refuge, c'est un sujet très, très important, bien sûr, dans le bouddhisme. Hein, parce que c'est dans la mesure où il y a le refuge que la pratique que l'on fait, pratique ou activité, peu importe, elle devient bouddhiste. Hein. C'est la marque, en fait. C'est le sceau, plus ou moins, du bouddhisme. À partir du moment où il y a ce refuge donc dans les trois joyaux, on peut dire que la pratique que l'on fait est une pratique bouddhiste. Donc c'est pour ça qu'on récite cette prière au début des enseignements ou d'une méditation, par exemple, comme je vous conseillerais de le faire dorénavant. C'est pour que votre méditation ne soit pas simplement un exercice spirituel parmi tant d'autres, comme la détente ou comme regarder la télé, c'est une pratique qui est bouddhiste. Donc le fait de réciter le refuge vous place directement donc dans un cadre, un cadre de référence bouddhiste. Parmi vous, je ne sais pas si tous les gens qui sont sur Internet, il y en a 28, plus vous, une petite vingtaine ici dans la salle, peut-être d'autres encore sur les autres plateformes. Je ne sais pas qui a pris, peut-être parmi vous, il y en a qui ont pris refuge déjà, hein, formellement, auprès d'un maître spirituel, en adoptant, lors d'une cérémonie de refuge, comme ça se fait traditionnellement, en prenant des vœux de refuge, des préceptes de refuge, et qui se sont engagés formellement dans cette voie. Parmi vous, il y en a d'autres qui, bien sûr, qui n'ont pas pris refuge. Parmi vous, il y en a certains qui pensent à prendre refuge, peut-être, qui hésitent encore, et c'est tout à fait louable, tout à fait honorable de réfléchir et de ne s'engager que quand on a vraiment réfléchi et que quand on se sent prêt à le faire. C'est pas la peine d'aller trop vite, de faire ça à toute vitesse, ça sert à rien. Il vaut mieux donc bien réfléchir, prendre son temps pour réfléchir et le faire formellement donc quand on se sent prêt. Donc on prend pas refuge pour faire parce que c'est à la mode ou pour faire comme ses copains. C'est vraiment quelque chose, c'est un acte intérieur. Donc le sujet du refuge, en fait, c'est ce qui ouvre la voie bouddhiste, en fait. Hein. C'est l'ouverture, c'est l'accès à la voie bouddhiste. C'est la porte d'entrée à la voie bouddhisme, à la voie bouddhiste. Pardon. Et c'est la porte qui vous ouvre sur la voie qui conduit à la libération et à l'éveil. Donc c'est un sujet... Hein, extrêmement important, puisqu'on franchit un peu, en quelque sorte, la porte d'entrée on entre vraiment dans le... Et c'est important de savoir ce qu'on fait, en fait. Donc c'est pour ça que je voudrais peut-être, ou en tout cas ce matin, avant de rentrer vraiment dans les explications des qualités, du refuge, etc., tout ce qu'on trouve dans l'enseignement lui-même, je pense qu'il est important qu'on réfléchisse et qu'on prenne un peu de temps pour analyser un peu ce que ça évoque pour nous le refuge. Qu'est-ce que c'est que prendre refuge ? Et on verra plus tard, après, donc, peut-être cet après-midi ou peut-être demain, je ne sais pas, tout ce qu'il y a derrière, hein, au niveau traditionnel, en tout cas. Qu'est-ce que c'est qu'un Bouddha ? Qu'est-ce que c'est que le Dharma ? Qu'est-ce que c'est que la Sangha ? Quelles sont les qualités ? Voilà. Mais si on commence comme ça directement, d'abord, vous allez vous endormir, hein. Ça, c'est sûr. Je vais raconter mon truc. Et puis, voilà, je ne sais pas si ça va vraiment vous toucher. J'en sais rien, je ne peux pas le savoir. Donc, avant de commencer comme ça par vous donner formellement toutes ces qualités, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Et donc, c'est un sujet, c'est un beau sujet, c'est un très, très beau sujet, le refuge. Ça demande de la part de celui qui l'enseigne, ça demande une certaine conviction, quand même, pour qu'il y ait quelque chose qui passe. Donc, j'espère que j'arriverai à vous faire sentir ou à dire des choses plus ou moins intelligentes là-dessus qui vous toucheront et qui vous permettront d'ouvrir la porte, quoi. Sinon, la porte restera fermée, malheureusement. Et pour vous, donc, ce que je vous demande, simplement, il y aura certainement des choses qui vont vous paraître bizarres quand on va énumérer les qualités ou des choses auxquelles vous n'adhérez pas forcément, parce que ça ne vous touche pas. En tout cas, de rester ouvert ou de bien prendre conscience que c'est une voie, hein, c'est un chemin spirituel. Donc les choses, elles vont se développer. Hein. Elles ne vont pas apparaître comme ça avec une conviction totale. Depuis le premier jour, on en entend parler, à moins que vous ayez un karma particulièrement mûr et que les simples mots vous éveillent. Mais bon, en général, on a quand même pas mal d'obstacles. Surtout quand on entend parler de choses aussi vertueuses, en fait, que ça. Parce qu'on va décrire des qualités. Ce sont des qualités parfaites. Et nous, notre esprit, pour l'instant, il n'est pas encore parfait, même si la perfection est inhérente, on pourrait dire, à notre esprit, mais... On n'a pas éliminé tous ces voiles. Donc, parler de perfection, parfois, ça peut faire réagir, grincer des dents, suivant nos opinions, comment on voit les choses. Donc, le refuge, en fait, si l'on... Pour commencer... En fait, pour commencer, il faut partir de notre situation, de là où on en est. C'est toujours comme ça que le Bouddha a enseigné, en partant de là où était son auditoire. Donc pour nous, notre situation actuelle, en tant qu'être, on dit ordinaire, parce qu'on n'est pas des Bouddhas, on n'est pas, en tout cas, on n'a pas manifesté l'éveil pour l'instant, même si on est des Bouddhas en puissance, on pourrait dire. On n'a pas encore manifesté ça. Ce n'est pas encore manifeste pour nous. Donc, on est dans ce qu'on appelle des êtres ordinaires. Bon, c'est un terme qu'on n'aime pas trop, mais c'est comme ça, quoi. Par rapport à un Bouddha, on n'est pas éveillé. On est des êtres non éveillés, on va dire. Pourquoi on n'est pas des êtres éveillés ? Ben justement, parce qu'on n'a pas complètement éveillé ce potentiel qui est en nous, ce potentiel de Bouddha, ce potentiel de bouddhéité. Donc, c'est simplement ça, en fait. Et en tant qu'être ordinaire, et c'est tout à fait louable aussi, la seule chose à laquelle on aspire, à partir du moment où on se lève jusqu'au moment où on va se coucher, c'est à être heureux. Et on peut regarder dès qu'on met le pied par terre, c'est comment on va faire pour que notre journée soit la plus heureuse possible. Et ça, c'est ça occupe notre esprit 24 heures sur 24. Cette volonté, d'être heureux. Alors, en fait, nous avons une double motivation dès que nous nous levons, hein, avant de prendre quoi que ce soit, avant de prendre le petit déjeuner. C'est vouloir être heureux et éviter toute forme de souffrance. Donc, nous avons, de ça, nous avons des définitions très différentes du bonheur pour nous. Le mot bonheur, c'est un terme relativement abstrait. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. C'est au niveau concret. Tout ce qu'on fait pour essayer de se donner du bonheur. Je ne dis pas du plaisir, mais vraiment être heureux. Parce que finalement, c'est ça qu'on cherche, au fond de nous. Et pas seulement nous, mais tous les êtres. Hein. Tous les êtres, quels qu'ils soient. Hein. C'est, en fait, c'est notre dénominateur commun. C'est cette volonté de trouver le bonheur et de fuir la souffrance et d'éviter toute forme de souffrance. Donc chaque fois qu'on, en général, chaque fois qu'on fait une, qu'on a une expérience un peu désagréable, bon, la souffrance, hein, comme vous le savez, vous vous en êtes rendu compte déjà, c'est un sujet qu'on évite en général de regarder en face parce que on préfère justement se concentrer sur ce qui va nous rendre heureux et on évite donc de prendre conscience en fait de nos souffrances. On peut, dès qu'on les remarque, on fait tout pour les dépasser ou les occulter ou les fuir, quelque chose comme ça. Et donc la souffrance, c'était donc, on verra à partir du mois de septembre, on va rentrer dans ce qu'on appelle les quatre nobles vérités. Mais en fait, les quatre nobles vérités font partie constante et intégrale des enseignements du Bouddha. On peut les retrouver dans tous les enseignements. Et donc, le refuge, on ne peut pas parler du refuge si on n'a pas déjà évoqué cette première noble vérité qui est la vérité de la souffrance. C'est-à-dire que nous avons tous, nous rencontrons tous la souffrance. Alors, le mot un peu bizarre pour nous, mais toute forme de problème, toute forme de choses indésirables qui nous arrivent dessus, soit parce que on n'est pas dans la situation que l'on aimerait avoir, on n'est pas avec les personnes avec qui on aimerait être, toutes ces insatisfactions qui sont là dans notre quotidien. Hein. Donc, quand on entend ce mot souffrance, c'est un gros mot quoi, pour nous. Mais il faut mettre derrière ce mot le terme plutôt insatisfaction. Et c'est ce que veut dire le mot sanskrit, en fait. On l'a traduit par dukkha, hein, par souffrance, mais c'est, en fait, c'est toute forme d'insatisfaction qui est derrière. Hein. Donc, quand on... la première des nobles vérités, donc, c'est de prendre conscience de cette insatisfaction qui est notre quotidien, en fait. On n'a jamais vraiment les choses que l'on veut. Donc c'est la première chose à regarder, c'est que on essaye par tous les moyens d'échapper en fait à la souffrance ou de l'éviter. Et ce processus mental, hein, cette action mentale, cette activité mentale ou cette pensée en fait de vouloir éviter la souffrance nous fait en fait que l'on va tout de suite se diriger vers quelque chose pour éviter cette souffrance. Mais c'est ça le refuge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on prend refuge 24 heures sur 24, ou au quotidien, sur quelque chose d'autre pour ne pas nous montrer notre souffrance. Hein. Quelque chose qui va nous empêcher de voir notre souffrance. Donc c'est ça en fait le refuge. C'est on se réfugie, on place notre esprit dans un palliatif, dans quelque chose de un subterfuge, on pourrait dire, dans quelque chose qui nous occulte la souffrance. Donc c'est cette démarche en fait qui est qui fait vraiment partie de notre psychologie quoi, pour éviter la souffrance. C'est aussitôt qu'on ressent une souffrance, on va chercher une solution ou on va chercher un moyen de ne pas l'avoir, où on va chercher une forme de plaisir pour s'en protéger. Ou pour s'en... Donc ça, c'est ce réflexe, pas seulement humain, je pense, hein, au niveau de tous les êtres qui est là. Et Donc, cette forme, cet échappatoire, on pourrait appeler ça comme une forme d'échappatoire au quotidien, dans la vie ordinaire, c'est le mécanisme, en fait, du refuge. Seulement, dans le bouddhisme, on va justement sublimer, on pourrait dire un peu ça. C'est-à-dire, au lieu de prendre refuge, entre guillemets, dans des choses mondaines qui sont comme des sparadraps sur une jambe de bois, hein, on pourrait dire, puisque finalement, ça ne résout rien et ça ne résout jamais le problème. On en a essayé plein. On les a tous plus ou moins essayés à notre âge. Et on voit bien que ça n'a rien résolu. Rien. Puisque cette souffrance est toujours là, quelque part. Hein. Cette insatisfaction permanente était toujours là. Donc tous les refuges que l'on a essayé d'utiliser n'ont pas amené vraiment le bonheur parfait que nous recherchons. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on recherche. Donc là aussi, il y a il faut déjà prendre conscience qu'on est à la recherche du bonheur. Hein. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, si vous écoutez ça, les enseignements bouddhistes, si vous êtes intéressé, c'est parce que, justement, d'une part, vous avez fait pas mal d'expériences quotidiennes et dans votre vie qui vous ont amené là, à vouloir recevoir des enseignements qui tendent à vous donner un refuge, en fait, parfait. C'est-à-dire un refuge qui va vous amener à un bonheur parfait, que c'est un bonheur parfait, c'est un bonheur stable. Ça ne veut pas dire que dans le quotidien, on ne rencontre pas de bonheur, bien sûr qu'on en rencontre. Sinon, ça serait dur. Hein. Évidemment, on a toutes sortes de formes de plaisir, mais ces bonheurs, tout le monde, ne sont jamais stables. Hein. Ils vont durer un instant, deux, trois instants, un peu plus, quelques minutes, mais au bout du compte, il y a encore l'insatisfaction qui est là. Donc, il ne comble jamais ce vide, ce manque, en fait. Ce manque de quoi ? D'un bonheur parfait. Donc, le refuge dans le mot refuge, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, d'un côté, on arrête, quelque part, de rechercher ou de vouloir trouver un bonheur immédiat dans des choses qui ne peuvent pas le procurer, ce bonheur immédiat. Enfin, si, qui peuvent procurer un bonheur immédiat, mais qui ne peuvent pas procurer un bonheur à long terme. Bien sûr, plein de choses peuvent procurer un bonheur immédiat. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Hein. Pour trouver un bonheur immédiat, on a utilisé plein de choses. En fait, toutes les choses qu'on utilise pratiquement au quotidien, c'est pour nous donner un bonheur immédiat. Pratiquement tout. Donc là, c'est notre façon de vivre. Hein. Donc cette façon de vivre, cette quête en fait d'un bonheur, c'est ça qu'on va utiliser pour prendre refuge. Mais maintenant, en prenant conscience que tout le reste, en fait, ça va jamais nous donner le bonheur vraiment définitif, qu'il n'y a qu'un moyen de trouver ce bonheur définitif, c'est de nous engager sur la voie bouddhiste, hein, et de prendre refuge non plus dans des affaires mondaines et passagères, mais dans quelque chose qui est parfait. C'est ça que nous voulons, en fait, si nous sommes là. C'est que tout le reste, nous avons cru que c'était parfait, plus ou moins. Même, nous savons que ce n'est pas parfait, bien sûr, ce qui apporte un bonheur immédiat. Mais quelque part, au fond de nous, il y a cette espèce de besoin de la voir, cette chose-là, parce qu'elle nous comble, elle nous donne un plaisir, une satisfaction immédiate. Mais ce que nous recherchons beaucoup plus, c'est ce bonheur définitif, cette perfection définitive. Et ça, c'est très bien de rechercher cette perfection. C'est ce qui donne un sens à notre vie, quelque part. De faire chaque fois un pas de plus vers le bonheur. Et c'est ça que nous propose, en fait, la voie bouddhiste. C'est-à-dire que chaque pas de pratique qui est fait avec cette conscience du refuge, d'un refuge parfait, de cette quête d'un refuge parfait, va nous amener à de plus en plus de bonheur. Donc, c'est pas... Bon, ça peut paraître un peu magique comme ça, comme si le bonheur allait nous tomber du ciel, simplement en prenant refuge. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Ça, c'est justement juste pour vous décrire un petit peu la quête qui est en chacun de nous. Mais la première chose, je pense, à éliminer déjà de notre courant de conscience, c'est une croyance qu'on a tous un peu quelque part, que le bonheur va nous arriver comme ça du ciel, va nous tomber du ciel. Et ça marche pas comme ça dans le bouddhisme. Le refuge, c'est pas quelque chose qu'on récite la prière de refuge et puis voilà, on est protégé, c'est fini, tout va bien, on est heureux, magiquement comme ça. C'est un processus beaucoup plus dynamique que ça. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de passif qui va nous arriver, qui va nous tomber dessus, mais c'est quelque chose que l'on doit créer. Et c'est pour ça que dans l'expression tibétaine, pour dire prendre, qu'on a traduit par prendre refuge, eux ils disent kapsudrowa, c'est-à-dire aller vers le refuge. C'est-à-dire, on est dans notre situation qui est la nôtre actuellement, on est des êtres non éveillés, et il faut quelque part faire un petit effort pour aller vers ce refuge. Les autres refuges, on les fait pratiquement sans effort parce qu'on a un instinct pratiquement. Viscéral, d'aller vers des choses qui vont nous amener un peu de bonheur. Tandis que l'autre, le refuge parfait, ben, il faut aller quelque part, aller rechercher ce qui, dans notre esprit, est parfait, en fait, pour nous amener au refuge parfait. Ouais. Si on se laisse aller à l'imperfection, ben, on ne rencontre que des refuges imparfaits. Et c'est ça, en fait. Si l'imperfection, c'est quoi, en fait? C'est nos émotions perturbatrices. Hein, c'est l'attachement, le désir, la jalousie, la colère, etc. Toutes ces émotions qui sont, disons, des facteurs mentaux qui sont dans notre esprit et qui nous dirigent vers des objets, en fait, qui vont forcément rentrer en relation avec ces perturbations mentales et les objets et entretenir une forme de communication, si vous voulez, entre le facteur mental qui est là et l'objet en question, et les deux s'alimentent, en fait. Donc l'objet alimente notre perturbation mentale rend cet objet encore soit plus beau ou au contraire plus laid, si on est en colère par exemple, et donc il y a un processus comme ça interactif entre les deux. Au contraire, si on a l'attitude juste du refuge, c'est-à-dire de rechercher cette perfection, il y a un déclic. Le déclic qui se passe dans notre esprit, c'est cette quête de perfection va nous propulser même, pas physiquement, hein, mais en tout cas mentalement, vers un objet pur, vers un objet parfait, vers un objet qui va nous combler. Donc l'attitude, c'est ce que j'essaye de vous montrer, c'est que le refuge, c'est une attitude mentale. Ce n'est pas un objet, en fait, qui serait là et sur lequel il faut, qui est là de manière construite, et puis il existe, et puis il faut à nous de le trouver, et puis si on le trouve, ben, tant mieux, mais si on ne le trouve pas, ben, tant pis, on va continuer à chercher. Non, ce n'est pas vers l'objet qu'il faut chercher, c'est vers le sujet. C'est renverser le regard. Mais nous, on a tendance, notre tendance d'être ordinaire, c'est justement de chercher le bonheur dans des objets extérieurs. C'est-à-dire d'assumer, de croire que cet objet extérieur, en lui voyant toutes sortes de qualités que l'on a plus ou moins inventées ou imaginées, va nous apporter ce bonheur parce que cet objet a telle ou telle qualité et donc ces qualités-là vont devenir les nôtres. Seulement, ces qualités dans l'objet, elles n'existent pas. Et c'est là la grande hallucination du truc. C'est que toutes les qualités que l'on voit dans un objet, c'est nous qui les mettons. Elles n'existent pas dans l'objet lui-même. Il n'y a rien dans l'objet qui existe de manière intrinsèque, de manière inhérente à l'objet. Elle n'existe que par ce qu'on pourrait appeler une projection mentale sur cet objet-là. Donc comment est-ce que c'est voué à l'échec notre histoire? c'est voué à l'échec parce que nos perturbations mentales imparfaites projettent sur des objets des qualités que l'on voudrait parfaites, mais qui n'existent pas. Donc, tôt ou tard, on va se retrouver confronté à quoi ? Eh bien, à nos propres perturbations mentales. Ce qui fait que les choses ne durent pas, les relations, elles évoluent, mais elles ne sont jamais complètement satisfaisantes. Les objets en question ne nous apportent pas le bonheur qu'on veut, etc. Maintenant, si ce même processus de refuge dans des objets que l'on a complètement fabriqués de manière mentale, on le place dans le sens du dharma, en allant donc vers le refuge, c'est-à-dire en touchant en nous cette attitude intérieure qui recherche la perfection, eh bien, mais une perfection authentique, perfection vraie, eh bien, cette objectivation, justement, va nous amener de plus en plus vers le refuge, vers un véritable refuge. Ce n'est pas un refuge qui repose sur des perturbations mentales. Et là, il faut bien faire la différence entre des perturbations mentales, c'est-à-dire des facteurs mentaux non vertueux, et des facteurs mentaux vertueux. L'amour, la compassion, la foi, la confiance, ce sont des facteurs mentaux. Et plus on les développe, ces facteurs mentaux, plus ils apportent du bonheur. Donc si on se sert de ces facteurs mentaux pour aller vers le refuge, on va forcément aller vers le bonheur. Au contraire, nous, si on prend les autres facteurs mentaux, les facteurs mentaux négatifs, plus on les accroît, plus on les augmente, plus on les exacerbe, plus ils apportent de la souffrance. Donc plus l'objet vers lequel on tend va nous apporter de la souffrance, cet objet-là. Parce que l'objet n'existe pas en lui-même. Alors bien sûr, ultimement, est-ce que les trois joyaux existent ? Là, ça va être toute la question. Mais là, on rentre dans une analyse ultime pour laquelle ça va être l'aboutissement en fait, de notre réflexion. Donc en fait, ce qu'il ne faut pas accepter, il ne faut pas accepter un refuge. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que l'attitude du refuge, c'est de se poser des questions. Et c'est ce que nous demande de faire constamment sa sainteté, le Dalai Lama, avant d'accepter quoi que ce soit. Et comme l'a dit le Bouddha Shakyamuni, n'acceptez pas mes enseignements simplement par respect pour moi, mais analysez-les par rapport à vous. Donc c'est le refuge, comme tous les autres enseignements, doit nous ramener à nous-mêmes, à notre manière de fonctionner, à notre quête de bonheur et de vouloir éliminer la souffrance. Une petite pause pour essayer de réfléchir un peu à tout ça, s'il y a des choses qui se mettent en place ou qui justement semblent être en porte-à-faux avec ce que vous pensez, essayez de les analyser. Et on peut déjà penser justement dans notre vie à tous les refuges en fait que l'on a pris en fait, qu'on a suivi depuis notre plus tendre enfance jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on devienne bouddhiste. En quoi est-ce qu'on a pris refuge ? Refuge donc a le sens aussi de protection en tibétain, kapsujo, c'est aller vers une protection. Donc quand on pense à une souffrance que l'on a, on va chercher une protection contre cette souffrance. Donc quand on était petit, notre plus grand protecteur, en fait, c'était nos parents, ou nos grands-parents, enfin peu importe, les gens qui nous ont élevés. Disons. C'est vers eux qu'on se tournait chaque fois qu'on avait besoin de protection. Chaque fois qu'on avait une souffrance, un problème, hop, on se tournait vers maman. ou vers papa. Ensuite, à l'adolescence, on a essayé d'autres méthodes pour être heureux. Et puis plus tard aussi, à l'âge adulte, on a essayé aussi encore d'autres méthodes. On a pu essayer ainsi des différentes thérapies pour essayer de fonctionner à peu près normalement, mais toujours dans le but de sortir de nos souffrances, sortir de nos problèmes, pour être capable de se sentir heureux. Donc toutes ces choses qu'on en a essayées, que ce soit des choses matérielles ou immatérielles, ou... elles nous ont procuré un certain refuge, une certaine protection. Elles ont fait diminuer notre souffrance dans une certaine mesure. Ils nous ont apporté un certain bonheur. Mais en fait, on s'est rendu compte que tous ces refuges, toutes ces protections n'étaient jamais vraiment parfaites. Pendant un certain temps, elles ont fonctionné peut-être, mais au bout du compte, elles n'ont pas amené une véritable satisfaction. Elles n'ont pas vraiment fait cesser notre souffrance. Peut-être qu'elles ont éliminé les symptômes, mais elles n'ont pas éliminé la cause de la souffrance. Ce qui est la deuxième des nobles vérités du Bouddha, après avoir vu la souffrance, c'est d'éliminer la cause de la souffrance. Donc ce que nous essayons de trouver, en fait, c'est un refuge parfait. C'est le refuge, un refuge plus fort, plus stable que tous ceux que l'on a essayés. Et puisqu'on les a tous essayés, plus ou moins, nous devons trouver un refuge qui soit complètement différent de ce que l'on a cherché, ou de ce que l'on a trouvé. Et c'est à ce moment-là que l'on se tourne vers le bouddhisme. À la recherche donc d'un refuge qui soit complètement fiable, qui soit complètement digne de confiance et qui ne nous conduise pas à un nouvel échec. Parce qu'en fait, là où nous en sommes arrivés, c'est qu'à force d'essayer tous ces refuges, toutes ces protections, toutes ces choses imparfaites, pourquoi est-ce qu'elles ne fonctionnent pas ? C'est parce qu'en fait, le problème ne vient pas de ces choses-là, mais le problème est à l'intérieur de nous. Et donc, c'est ça que l'on a réalisé. On a pris conscience de ça. Que la souffrance, en fait, elle vient de notre propre esprit. Et que tous ces refuges extérieurs ne vont pas nous aider vraiment à éliminer ou à résoudre les problèmes qui sont dans notre esprit. Ça va simplement cacher, masquer les symptômes de manière temporaire, mais ça ne va pas toucher la cause principale. Donc en fait, nous en sommes là, plus ou moins, que la prise de conscience, en fait, que la souffrance est dans notre esprit. Que c'est dans notre esprit que ça va se jouer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conditions extérieures à nos souffrances, bien sûr qu'il y en a. Il y a de nombreuses conditions extérieures qui amènent de la souffrance. Mais la cause principale, la cause racine de notre souffrance est dans notre esprit. Donc c'est ça que le Bouddha, en fait, a enseigné. Donc le refuge que l'on va prendre, vers lequel on va tendre, en fait, c'est ce refuge justement qui va nous aider à éliminer la cause racine de la souffrance. Et c'est une belle aventure. C'est-à-dire que maintenant les symptômes, ça va, on les a vus, on les connaît, on sait que le reste, ça ne va pas marcher. Donc on va éliminer la cause racine et on va aller directement à ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de... On va passer à la suite. Donc on va essayer de voir les choses sous différents angles, voilà, pour voir ce que c'est que le refuge, et puis après... Donc si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, choses qui ont été mal dites ou mal comprises, vous pouvez intervenir sur... Faut que j'allume les micros
non.
C'est bon, tu t'en occupes? Comment ?
Oui, à Vierre, il y a une personne qui s'élève de main.
Où ça ?
Sur Zoom.
Sur Zoom, d'accord. Alors, je vous écoute. On n'entend pas. Hein. Il y a des gens...
Allô ?
Oui.
Très bien. Ah, voilà. Ouais. J'ai une petite question. Oui. Peut-on prendre refuge dans une autre école que Gelupa ? Si oui, cela pourrait-il être un obstacle ? À certaines positions ultimes.
Non. Quand on prend refuge, on ne prend pas refuge dans une école. Hein. Kagyu, Gelu, Lama, Sakya,
oui.
Peu importe. Hein. Quand on prend refuge dans le bouddhisme, on prend refuge dans le bouddhisme sans le moindre sectarisme. On ne prend pas refuge dans son école ou dans sa tradition. Non, ça, c'est...
D'accord, merci.
Ouais. Merci de cette question. Oui. C'est bien de le préciser, tout à fait, oui. Ça, c'est encore une attitude extérieure. Si vous voulez. On va analyser au niveau extérieur les différentes qualités de l'objet. Et puis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Le refuge, c'est vraiment intérieur. Donc, c'est pas quelque chose justement qui est lié à une. C'est le même refuge hein, dans toutes les écoles bouddhistes tibétaines. Hein, c'est le principe de base hein, du refuge. Que ce soit dans le petit véhicule, dans le grand véhicule, dans le véhicule des tantras aussi. Oui. Le micro. Merci. Oui.
te demande ton question, s'il te plaît.
D'accord.
D'accord.
Tout à l'heure, on a récité la prière du refuge.
Oui, donc tout à l'heure, on a récité la prière du refuge, oui.
Comme si on avait déjà pris refuge.
Comme si on avait déjà pris refuge, oui.
Donc, quelque part, ça me gêne.
Oui. Oui, ça vous gêne de répéter une prière alors que, vous n'avez pas pris refuge.
Voilà. C'est
l'idée. Et la question ?
La question, il y a un sentiment d'être en porte-à-faux. Je n'ai pas pris refuge. Je fais comme si j'avais pris refuge.
D'accord. OK. Très bien. C'est ça qui vous gêne. Il y a plusieurs, on peut réciter cette prière justement à plusieurs niveaux. Hein. On peut réciter cette prière, si on a vraiment pris refuge, eh bien on renouvelle, en récitant cette prière, on renouvelle sa confiance dans le refuge. À ce moment-là, on la récite à ce niveau-là. Si on n'a pas pris refuge, on la récite comme une aspiration à prendre refuge quand le moment sera venu. Quand on sera prêt à prendre refuge, et c'est une attitude en fait seulement d'ouverture, on récite ces mots en aspirant quelque part dans un temps plus ou moins long à prendre refuge, mais il n'y a pas de gêne à avoir justement de dire ces mots. Justement, tu peux justement dans votre esprit, vous pouvez les dire simplement en gardant une attitude ouverte par rapport à ça. Donc, ça ne veut pas forcément dire que l'on a pris refuge formellement, mais ça veut dire que l'on tend, en tout cas, vers ce refuge. Donc, ça m'amène à juste... Ouais, s'il y a d'autres questions, peut-être, on va les répondre avant de passer à la suite. Ça m'amènera justement à la définition du refuge. Oui, d'autres questions, non ? Sur Zoom, personne ? Okay. On continue. Donc la définition du refuge. Je vais vous donner une définition que j'ai écrite hier soir. Donc elle est toute fraîche. Je pense que j'ai mis tous les mots qu'il fallait, mais bon, on peut peut-être l'améliorer. Donc la définition du refuge, je dirais que c'est une direction sûre que l'on donne à sa vie. Une direction sûre que l'on donne à sa vie pour se protéger de la souffrance. Donc là, entre parenthèses, c'est la vérité de la souffrance que l'on touche. Donc une direction sûre que l'on donne à sa vie pour se protéger de la souffrance et de ses causes de la souffrance, les vraies causes. Et là, on touche l'origine, la vérité de l'origine de la souffrance. Donc voilà. Donc une direction sûre que l'on donne à sa vie pour se protéger de la souffrance et des causes de la souffrance. Voilà. Donc ça veut dire que quand on est arrivé au terme de cette direction, de cette route, eh bien, on est libre de la souffrance. Donc c'est pour ça que je vous disais au début, le refuge mène à la libération, conduit à la libération. C'est ça qu'on cherche dans le refuge. Donc on est vraiment dans une démarche, pas simplement une démarche psychologique, je dirais, de vouloir éliminer, bien sûr, certainement, on veut éliminer les perturbations mentales, on veut éliminer nos défauts, on veut être de meilleures personnes, bien sûr, évidemment, comme lorsqu'on fait une thérapie, voilà. Mais le bouddhisme, c'est pas une thérapie. Hein. Enfin, en tout cas, ça se limite pas à une thérapie. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va à l'éveil. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Quand on prend refuge, on prend quelque chose, on prend refuge dans l'éveil. Dans l'éveil, pas dans quelque chose de momentané. Voilà. Donc quand vous récitez la prière de refuge, par exemple, vous pouvez très bien avoir cette attitude de... que vous vous dirigez vers l'éveil. Hein, voilà. Simplement penser à ça. Que vous êtes là pour suivre des enseignements, entre guillemets, et que vous êtes là parce que vous aspirez à quelque chose de mieux que ce que vous vivez actuellement, à une perfection, et à la perfection ultime, qui est celle de l'éveil. Donc c'est à ça que, hein, que mène. Donc quand on a atteint, quand on est arrivé au terme de cette direction qu'on a prise, eh bien donc on est libre de la souffrance pour toujours, pas d'une manière temporaire, mais pour toujours. Et donc là c'est la vérité, ce qu'on appelle la vérité de la cessation, la troisième noble vérité. Vérité de la voix, vérité de la souffrance, vérité de l'origine de la souffrance, vérité de la cessation, et vérité, quatrième vérité, vérité de la voix. La voie qu'on va suivre justement pour se libérer, pour atteindre ça. Donc voilà ce que c'est le refuge en fait. Ça comprend, ça contient vraiment les quatre nobles vérités. On en reparlera des quatre nobles vérités quand on passera au deuxième niveau à partir de septembre. Hein. Donc c'est quelque chose de très vaste, hein, et de très complet. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment un processus dynamique. On est, en prenant refuge, donc, le refuge nous ouvre la voie à l'éveil, mais cette voie vers l'éveil, ben, il faut la parcourir. Hein. Il faut avancer dessus. Et ça, personne d'autre va faire le travail à votre place. Donc le refuge, ce n'est pas un abri où il n'y a rien à faire. Hein. C'est justement l'entrée dans une voie où l'on commence à... où l'on va avancer, certes, mais où l'on va avancer par nous-mêmes. Hein. Mais pour avancer par nous-mêmes, on a besoin justement d'une voie. Et donc ça, c'est l'aspect du dharma hein, qui va... l'enseignement qui nous montre la voie, qui nous dirige. Donc, en fait, on pourrait dire que je le présente comme ça. Hein. En général, quand on dit Bouddha, Dharma, Sangha, en parlant de le Bouddha, les qualités sont présentées comme ça. Mais je pense que pour nous, occidentaux, en tout cas, qui ont un certain passé, une certaine réflexion, on va commencer par prendre refuge, en prenant refuge dans le Dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha lui-même. En voyant justement de manière empirique hein, que cet enseignement, ben, il fonctionne pour nous. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut ingurgiter, ce n'est pas une propagande, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en pratique, hein, qu'on va utiliser. Donc, à partir de ce moment-là, on va rentrer dans ce véritable refuge. On va pouvoir établir une confiance. Et. Le refuge est basé sur la confiance. C'est une des causes du refuge. Pour qu'il y ait vraiment refuge, il faut qu'il y ait deux causes. Hein? Alors, la première cause, ben, c'est celle dont on vient de parler, c'est la peur des souffrances. La peur des souffrances. Alors, je sais, le mot peur, ça fait peur, quoi. Vous me dites, voilà. Un truc qui est une méthode qui fonctionne avec la peur, non merci, j'en veux pas. Je veux me libérer de la peur. Mais ici, c'est pas une peur névrotique, hein, comme toutes les peurs que l'on a au quotidien, par exemple, qui sont complètement irréelles ou fondées sur des hallucinations. La peur que nous amène à prendre conscience le bouddhisme, c'est une peur salutaire, on va dire, qui permet, parce qu'elle est réelle. Et c'est pour ça qu'on a vu l'enseignement du karma juste avant le refuge. Normalement, c'est à l'envers, c'est l'inverse. Mais nous, on l'a fait dans ce sens-là, pour bien prendre conscience du karma, que dans notre esprit, on avait des potentialités karmiques qui pouvaient se manifester dans cette vie ou dans la vie suivante, dans les vies suivantes. Donc le bouddhisme enseigne qu'il y a toutes formes de vie, toutes sortes de vie. Nous avons celle-ci, actuellement, qui est pas mal quand même, mais il y en a des bien meilleures formes de vie que celle-ci que nous avons actuellement. Des formes de vie où on est beaucoup plus heureux, où on a beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de rencontres, d'amis, etc., ou de richesse, ou je ne sais pas quoi, beaucoup plus de bonheur, en tout cas. Mais il y en a d'autres où on en a beaucoup moins que celles que nous avons actuellement. Et donc, dans le bouddhisme, dans la fresque on va dire, des états d'existence, il y a ce qu'on appelle les mondes supérieurs, où on parle de Dieu, etc., qui ont des formes de jouissance absolument divines, célestes, tout ce qu'on veut. Et il y a des mondes inférieurs où les souffrances sont pires, bien pires que celles que l'on peut connaître dans cette vie-là. Donc nous, on connaît nos souffrances, hein. Nos expériences mentales de quotidien nous amènent à vivre certaines formes de souffrances qui sont plus ou moins gérables quand même à ce niveau. Avec ce corps humain, toutes ces potentialités que l'on a actuellement dans cette vie, on arrive à gérer. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. Et surtout, on ne sait pas, au moment de la mort, ce qui va se passer dans l'autre vie. Donc là encore, le refuge, bien sûr, dans le bouddhisme, ça prend en compte l'infinité des vies. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si on regarde le refuge d'une manière limitée, si on le regarde simplement du point de vue de cette vie, c'est vrai que ça paraît extrêmement limité. Si on le replace dans une perspective d'une infinité de vies, à ce moment-là, ça devient vraiment quelque chose qui peut nous parler peut-être davantage et nous amener plus de peur, dans un certain cas, dans un certain sens, et de confiance. Donc peur de quoi ? Des mondes inférieurs, en fait. Qu'on peut se retrouver dans la vie prochaine, propulsé dans une vie dans laquelle on aura beaucoup plus de souffrances que celles que l'on gère actuellement. Et ces vies, d'après le Bouddha, sont tout à fait possibles, sont réelles, existent. Elles sont. Il y a des gens, il y a des êtres qui les vivent actuellement. Nous, on ne sait pas. On ne sait rien, en fait. On ne sait rien du tout, puisque notre esprit n'a pas... est masquée, notre connaissance elle est masquée par de nombreux voiles qui nous empêchent de voir. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les gens qui sont devant nous, tout ce qui fonctionne avec nos sens, hein, sens visuel. On a quelques intuitions de ceci, de cela. On apprend des choses par la télé, par les infos. Bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais quelque part on y croit. Qu'il y a au Bangladesh, un taux actuellement, par exemple, ou au Sri Lanka actuellement, un taux de Covid énorme, hein, où il y a un variant qui est en train de décimer la population. C'est vrai. Hein, mais bon, on y croit, on ne le voit pas, on y croit. Même chose pour le Bouddha, il nous dit des choses, mais les vies futures, les souffrances des mondes infernaux, oulala, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas possible. Les souffrances des esprits avides, des prêtas qui ne trouvent pas de nourriture pendant des périodes cosmiques incalculables, ou des animaux qui endurent des souffrances incroyables, mais même des êtres humains. Hein, c'est pas simplement des mondes avec des formes complètement imaginaires. C'est même dans notre monde humain des souffrances qui sont... dont on ne devine peut-être même pas actuellement, là, en cet instant même, et qui existe pourtant. Donc le refuge, c'est basé aussi sur cette vérité, en fait, qu'il y a d'autres vies que la nôtre, et qu'après cette vie-là, on n'a aucune certitude, aucune certitude de là où on va se retrouver. Mais aucune. La seule chose dont on peut être certain, c'est qu'à un moment donné, on va mourir, hein, comme on l'a vu dans l'enseignement sur la mort et l'impermanence, puisque tout nous mène à ça. Mais ce qui se passe après, c'est le karma. Hein. C'est notre karma, c'est ce qui va nous propulser, c'est les perturbations mentales ou les choses vertueuses qui nous propulseront vers des vies futures agréables ou des facteurs mentaux non vertueux qui vont nous propulser vers des mondes infernaux, entre guillemets. Mais des mondes, en tout cas, où il y aura beaucoup de souffrance. Donc, le refuge, déjà, nous amène donc, à cette prise de conscience qu'il n'y a pas que cette vie, que la vie prochaine est complètement incertaine, que dans cette incertitude, il risque d'y avoir beaucoup de souffrance, et que en prenant refuge, en trouvant un refuge, une protection, tout de suite, on va, à coup sûr, s'éviter ces souffrances-là. Et l'autre chose, l'autre cause, ça c'était la première, donc la peur des mondes inférieurs. Donc je vous fais grâce pour ce week-end de toutes les descriptions des mondes infernaux que le Bouddha a donné. Mais pendant la retraite, vous allez y avoir droit. Hein. Vous n'allez pas venir. Non, on fera ça en light. Mais c'est bon quand même dans, en méditation de prendre conscience que notre vie, elle est quand même, on est quand même assez privilégié hein, d'un certain point de vue et que, qu'il y a d'autres formes. Donc c'est pour ça qu'il y a des descriptions de tous les mondes dans lesquels ces mondes infernaux, ces mondes d'esprits avides, ces mondes animaux, tout ça, qui sont en dessous des nôtres pour nous amener à prendre conscience qu'il y a d'autres formes de vie. Et qu'il est légitime d'avoir peur de renaître dans ces formes-là. Hein. Tout est, comme c'est légitime de penser que le fait de fumer tue, par exemple. Hein. C'est une vérité, quand même. Donc on peut se dire, j'arrête de fumer par peur de mourir, et de devoir avoir un cancer des poumons, par exemple. Hein. C'est une peur légitime. Ce n'est pas une peur idiote. On ne va pas traverser une rue quand il y a 3 semi-remorques qui passent. Alors on apprend à un enfant, dès son plus jeune âge, de faire attention. On lui fait peur, en quelque sorte. En disant, oh, si tu traverses là, c'est fini. Hein. Donc le Bouddha, c'est ça qu'il nous dit, en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous continuez à alimenter vos tendances négatives, si vous ne faites que ça, vous allez tout droit vers des mondes de souffrance pires que celles que vous rencontrez. Si au contraire, vous alimentez des tendances positives en observant la loi du karma, à ce moment-là, vous allez vers des renaissances, des formes de renaissance beaucoup plus favorables. Donc, le véritable refuge, en fait, quel est le moteur sous-jacent hein, au refuge, c'est la loi du karma, en fait. Qu'est-ce que nous dit le refuge ? Pour vraiment être protégé, appliquer, respecter, observer la loi du karma. Éviter les actions négatives hein, et pratiquer les actions positives. Et là, vous aurez une protection. Hein. C'est le premier enseignement du refuge, en fait. Hein. La protection ne va pas vous tomber du ciel, elle va vous allez être vraiment protégé qu'à partir du moment où vous avez un refuge fort. Et un refuge fort, qu'est-ce que c'est ? C'est un refuge dans la loi du karma. Vous voyez comment tout s'imbrique, petit à petit. Hein ? On a commencé ces enseignements par la précieuse renaissance humaine, qui était là, hein, toutes les conditions qu'on avait. Ensuite, la mort et l'impermanence, une réalité. Ensuite, le besoin d'un maître spirituel, quelqu'un qui nous guide justement sur la voie. Et ensuite, le karma. Qui est en fait notre. C'est à nous-mêmes hein, d'observer cette loi du karma. Ce n'est pas le maître spirituel qui va le faire pour nous. C'est nous au quotidien. Et pour renforcer ça, justement. Voilà. Si vous voulez, on peut faire une pause à ce moment-là.
Pour renforcer ça.
Oui, vous voulez une question ? Oui, vas-y. Oui.
Tu parlais tout à l'heure de maladies si on fume. Est-ce que quand on meurt d'un cancer ou d'une maladie grave qui a affecté nos organes, ça va causer une fragilité, une trace qui va se répercuter dans une vie suivante ? C'est-à-dire, quelquefois, il y a des gens qui fument beaucoup et qui ne sont pas malades, et d'autres qui naissent avec des poumons fragiles et qui, sans fumer, tombent malades. Est-ce que ça pourrait être dû à...
Oui, tout à fait. C'est dû au karma.
Une fragilité qu'on aurait causée avant.
Ce sont des fragilités qui viennent justement des vies antérieures. Bien sûr, ça, c'est le résultat de vies antérieures. Et quelqu'un qui fume dans cette vie, ce qui est intéressant de voir, c'est en fait, c'est pas... C'est pourquoi il fume. Hein ? C'est quelle est la raison ? Pour quelle raison cette personne fume ? Le refuge, dans ce cas-là, la cigarette ou autre chose, c'est son refuge. Dans ce cas-là. Donc cette personne cherche un refuge, quelque part. Elle n'a pas trop le trouve dans une cigarette, qui n'est pas le refuge, bien sûr, définitif et stable et parfait, mais qui est là et qui vient certainement de... des tendances aussi, des vies antérieures. de rechercher un refuge dans quelque chose qui n'est pas fixe, qui n'est pas stable, qui n'est pas constant. Et oui, non, c'est fragilité, oui, bien sûr, ça vient des vies antérieures. Oui. D'autres questions ? Ah, je ne l'ai pas dite ? Ah, ben peut-être, oui, c'est possible que j'ai oublié. Je ne l'ai pas dite ?
Si, si, on allait faire une pause ?
Non, la deuxième cause.
La deuxième cause, avant la pause. C'est quoi ?
Confiance.
La confiance. Ouais. La confiance dans les trois joyaux. On va y arriver, justement. C'est pour ça que je fais la pause maintenant. Parce qu'on a vu la première cause sur laquelle, bon, ben, bien sûr, je voulais que vous la connaissiez, bien sûr, c'est la peur. C'est une peur salutaire, une peur analysée, comme on pourrait dire. Et l'autre, c'est la confiance dans les trois joyaux. Alors là, je voudrais qu'on analyse ça au retour de la pause, justement. Quelle est. Comment est-ce qu'on peut établir cette confiance ? Voilà. Bon, ben, petit café ?